Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au forum quotidien du studio Kalungu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la migration face au changement climatique. Quelle perspective ? Le changement climatique, cette variation à long terme des températures et des conditions météorologiques est aussi une réalité dans nos pays du Sahel. Selon la Banque mondiale, d'ici 2050, le changement climatique risque de contraindre 216 millions de personnes à migrer à l'intérieur de leur pays. Au Niger, les effets des chocs climatiques sont de plus en plus récurrents. Et l'OIM estime que le Niger est le pays d'Afrique de l'Ouest qui devrait compter le plus grand nombre de migrants climatiques internes d'ici 2050 si aucune mesure n'est prise. Alors comment le changement climatique favoriserait la migration interne au Niger? Quel est son impact et quelles sont les perspectives? Ce sont les grands points de notre discussion cet après-midi. Bien sûr, il y aura plein d'autres en relance au cours de cette émission. Et comme intervenant, nous avons invité un représentant des jeunes volontaires pour l'environnement, JVE, M. Toudou Mahamadou, et Abdou Moumouni Bourahima de la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Je suis Rafika Taher à la présentation. Avec une croissance démographique importante et des défis récurrents liés à la dégradation de l'environnement, à la pauvreté et aux conflits, les effets du changement climatique exacerbent les vulnérabilités existantes. Au Niger, ce changement climatique se manifeste par des températures qui augmentent 1,5 fois plus vite que dans le reste du monde, entraînant des sécheresses, des inondations de plus en plus fréquentes et la dégradation des sols. Aujourd'hui, que peut-on dire de plus sur la situation du changement climatique au Niger? Monsieur Bourahima, on commence par vous.
Merci. Bonsoir à nos auditeurs. Et donc, je pense que vous avez déjà relaté quelques points concernant le changement climatique. Mais on peut encore dire davantage par rapport à ce changement climatique. Donc, la perception du changement climatique au Niger, je vais vous paraphraser, vous l'avez déjà dit, c'est dû aux variations donc de la température, bien sûr, mais aussi à la rareté des pluies. Et même si ces pluies ont lieu, c'est soit des intensités sur des temps relativement courts, mais la durée des pluies a drastiquement diminué sur le temps. C'est-à-dire maintenant, nous savons tous qu'avant, le mois le plus humide au Niger, c'était le mois pratiquement d'août. Mais de plus en plus, on constate que le mois d'août, quand on compte le nombre de jours où il pleut suffisamment, c'est pratiquement en baisse par rapport aux années antérieures. Donc, en plus de ces observations, vous avez parlé de la dégradation des terres, bien sûr. Donc, quand les terres se dégradent, effectivement, tout ce qu'il y a comme biodiversité sur la surface de la terre, qui sont la végétation ou même les animaux, eh bien, cette biodiversité également diminue. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui renseignent sur l'effet du changement climatique au Niger.
J'avais parlé aussi de la hausse des températures. Quels sont les facteurs de cette hausse-là, de ces températures et les conditions météorologiques extrêmes au Niger?
Bien, peut-être que je devrais commencer mon intervention en essayant peut-être de donner une définition de ce qu'est le changement climatique. Et donc, cela allait nous permettre d'avoir une bonne compréhension de tout ce que j'ai eu à dire jusque-là. Eh bien, le changement climatique, ce n'est rien d'autre que des variations, comme vous l'avez dit, de la température, mais aussi des facteurs météorologiques. Bien, donc, ce changement climatique, il y a deux causes qui sont à la base. La première des causes peut être d'origine naturelle et la deuxième est d'origine humaine. Ces deux causes ne sont rien d'autre que des émissions de gaz à effet de serre. Naturellement, dans la nature, on trouve des gaz qui emmagasinent la chaleur émise par le soleil sur la surface de la Terre et donc qui emprisonnent cette chaleur et c'est ça qui augmente la chaleur à la surface de la Terre. Pour faire simple. Et aussi, à travers nos activités, les humains...
Ça, c'est les changements climatiques d'origine humaine que vous allez nous
tout
expliquer maintenant, d'accord?
Voilà. Donc, les humains également, à travers leurs activités, émettent des gaz à effet de serre également. je vais peut-être profiter pour énoncer quelques-uns de ces gaz à effet de serre. Nous avons, parmi les gaz à effet de serre d'origine naturelle, nous avons le COD, nous avons par exemple la vapeur d'eau. Et concernant les gaz à effet de serre d'origine donc humaine, nous avons le méthane, qui est le CH4, qui peut être dégagé à travers l'élevage, par exemple. Donc, nous avons plein d'autres gaz, mais je tiens seulement à citer ces quelques-uns.
Donc, donnez-nous ces facteurs-là qui font que cette température augmente de chaque année au Niger.
En fait, c'est l'émission des gaz à effet de serre. En fait, ces gaz-là ont la capacité. Vous savez que le soleil émet ses rayons jusqu'à la surface de la Terre. Et donc, la Terre emmagasine une partie de la chaleur. Mais elle restitue cette chaleur. Et la présence des gaz à effet de serre au niveau de la couche superficielle terrestre, une partie de ces gaz à effet de serre dont je parle, ont la capacité d'emmagasiner la chaleur libérée par la Terre, ou même qui est émis par le soleil, et donc empêche le retour de cette chaleur-là dans l'atmosphère supérieure. Et donc, en les maintenant au niveau de la couche superficielle, c'est ce qui fait en sorte que la température augmente au niveau de la Terre.
Mais pourquoi particulièrement au Niger? On dit que le Niger est le pays où le changement climatique se manifeste le plus rapidement en Afrique de l'Ouest.
Peut-être que c'est dû aussi à sa position géographique. L'explication que je pourrais donner par rapport à ça, peut-être c'est dû à notre situation géographique. Parce que nous sommes à cheval entre la partie tropicale humide de l'Afrique et la partie saharienne. Donc cela pourrait expliquer, bien sûr, cette particularité du Niger.
Monsieur Toudou, comment est-ce que ce changement climatique pourrait impacter les populations au Niger?
Merci. Et bonsoir, cher public. Donc, selon les récentes observations, le changement climatique impacte nos populations en ce sens que de plus en plus, nous constatons des pertes en terres cultivables dans le milieu agricole, des pertes aussi de la biodiversité, ce qui veut dire qu'on a de plus en plus des espèces animales qui sont en voie de disparition, des espèces végétales aussi qui sont en voie de disparition. Donc, et la production agricole et fourragère est de plus en plus en diminution aussi. Donc, les populations rurales sont menacées par l'insécurité alimentaire depuis plusieurs années, parce que au Niger, depuis plusieurs années, nous sommes toujours dans plus ou moins ce qu'on a appelé crise alimentaire depuis les années 2005, où plusieurs régions sont toujours en déficit agricole.
Et comment est-ce qu'elles favorisent la migration?
Quand l'insécurité alimentaire est installée, c'est normal que les gens migrent parce que c'est un phénomène naturel, la migration. Les gens sont obligés maintenant de se déplacer pour peut-être accéder à des endroits plus favorables à la culture, avec des terres moins dégradées, ou aussi ils espèrent avoir une pluviométrie décente pour pouvoir assurer une bonne production et assurer aussi leur survie. Donc je peux peut-être aussi parler de quelques exemples que moi-même j'ai vécu.
Des anecdotes, oui, allez-y. Oui.
En 2017, on conduisait une étude avec l'Institut national de la statistique. Arrivé dans la région de Dosso, je suis tombé sur un village qui s'est déplacé deux fois pour changer de site. à cause du problème d'eau, parce que le premier site, il y avait un seul puits, le puits Atali. Ils ont cherché dans le secteur parce que la nappe était profonde. Donc, ça a poussé le village à se déplacer à un autre site dans l'espoir de trouver une nappe plus proche pour forer le puits et peut-être subvenir à leurs besoins. Donc, voyez-vous, et ça, c'est pour dire aussi le changement climatique aussi impacte jusqu'aux nappes phréatiques que ça cause aussi des difficultés aussi à avoir l'accès à l'eau potable.
Peut-être pour des compléments par rapport à la première question d'abord. Donc le changement, l'impact du changement climatique peut être perçu à travers, en plus de ce qu'il a dit bien sûr, la dégradation des terres qui, par ricochet, réduit de façon drastique la fertilité des sols. Et donc la production agricole, qui est donc l'une des activités principales de nos populations rurales, devient pratiquement impossible à réaliser. Donc cela conduit à la deuxième question, donc ça pousse la population à se déplacer, à migrer, pour donc aller à la recherche des environnements beaucoup plus favorables à l'agriculture et à l'élevage.
Comment est-ce que cette dégradation de l'environnement et le changement climatique sont perçus par les ménages ruraux?
Quand vous échangez avec la population rurale, vous leur demandez, par exemple, quels sont les principaux signes de la dégradation des terres, des sols.
Et comment est-ce qu'ils perçoivent ça?
Voilà. Ils vont vous dire que ils perçoivent ça premièrement à travers la réduction de leur rendement. Ils vont vous dire qu'avant, quand ils produisaient, ils obtenaient plus qu'ils n'obtiennent aujourd'hui. Et donc, ils disent que tout ça, c'est des signes donc, de dégradation des sols. Et qui dit dégradation des sols, on l'a dit, c'est vraiment lié, c'est une conséquence donc du changement climatique.
Monsieur Toudou, selon vous, comment la dégradation de l'environnement et le changement climatique sont perçus par les ménages ruraux?
Les ruraux ont des stratégies d'observation qu'ils ont depuis longtemps. Sur ça, nous, on a eu à discuter lors de nos activités terrain avec des ruraux. Ils disent que dans ce domaine, ils constatent aussi la disparition de certains arbres, espèces végétaux, et aussi de certains espaces animal. Donc, dû à la dégradation des terres, il y a des espèces animales aussi qui sont obligées de migrer parce qu'elles ne trouvent pas leur subsistance dans le milieu. Donc, c'est à travers ces différentes observations que le monde rural aussi perçoit l'impact du changement et de la dégradation.
S'ils arrivent à percevoir déjà l'installation de la dégradation de l'environnement, y a-t-il des moyens pour eux de contrecarrer ça ou bien il n'y a rien à faire?
C'est des techniques d'adaptation qui sont en train d'être enseignées. Déjà, ils ont, depuis belle lurette, leur propre technique d'adaptation de plus en plus. Même dans les milieux universitaires, on est en train d'utiliser le terme agroécologique pour adapter l'agriculture à cet impact de dégradation et de changement climatique. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'ancienne méthode traditionnelle qui est en train d'être retravaillée avec des évidences scientifiques pour améliorer l'adaptation face à ce phénomène de changement climatique.
Avec environ 347 000 déplacés internes à la date d'août 2022 selon HCR, le Niger a accueilli environ 580 800 personnes avec une situation préoccupante dont 48% sont des déplacés à l'intérieur du pays en raison d'insécurité depuis 2012. Au-delà de ces déplacements, s'ajoute la migration interne. Quelles sont les conséquences du changement climatique au Niger, Monsieur Bourahima?
Les conséquences du changement climatique, d'abord, je pense que on va essayer de faire un petit retour dans les années 50 pour essayer vraiment de montrer l'impact de ce changement climatique. Il y a une étude qui a été réalisée par un scientifique du nom de Pierre Hauser. Donc, dans son étude, il a démontré que dans les années 50, le Niger était un pays très arrosé. Et par là, il a essayé de démontrer que, par exemple, à Guingimi, il y a eu des moments où toute la ville était inondée, tellement que c'était une période vraiment où il pleuvait beaucoup. Et il a même dit qu'à un moment donné, pendant cette période, la route qui reliait donc Guingimi à Zander, actuellement la RN1, que la route était totalement impraticable à cause des pluies. Mais si vous avez l'habitude de fréquenter cette route aujourd'hui, vous allez voir que c'est des dunes de sable qui sont en train, en lieu et place, donc de l'eau, d'ensevelir donc cette route-là. Ça, en revenant un peu à Niamey, pendant les grandes sécheresses de 70 et 80, le fleuve Niger, je pense que c'était en 84, c'était complètement asséché ici à ce niveau. Donc, tout ça, c'est des effets du changement climatique. Vous voyez le passage donc de la période humide à la période sèche, la façon dont ça a été drastique. Donc on perçoit vraiment que le changement climatique est réel et que ses effets sont là. Maintenant, par rapport à ces effets, je vous parlais donc de l'ensablement, qui est vraiment, quand vous partez dans l'est du pays, vous allez voir que l'ensablement est un vrai casse-tête pour la population. Je me souviens qu'en 2020, lors d'une étude, quand j'étais là-bas, dans la zone, il y avait un village qui s'était déplacé deux fois. Le village s'appelle Yabari. Le village a dû se déplacer deux fois à cause de l'ensablement. Et maintenant, quand on revient vers l'ouest, vers l'ouest du pays, c'est vraiment la dégradation des terres, la perte de la fertilité des terres qui s'exprime par l'apparition des ravins, l'apparition des rigoles. Okay. Tout ça, c'est vraiment des conséquences, des effets, je vais dire, donc du changement climatique et donc de la dégradation des terres. Tout ça, ça rentre dans les conséquences. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population, soit elle reste, elle essaye d'être résiliente pour mettre en place, moi je ne vais pas dire des techniques, mais des pratiques. Je profite pour dire que la population en a déjà des pratiques qu'elle essaie de mettre en place pour essayer de vraiment lutter contre ce changement, pour s'adapter et continuer à vivre dans son milieu. Et donc, ces pratiques également sont saisies par les universités pour essayer de les perfectionner en des techniques. Parce que la différence entre une pratique et une technique, la nuance est là. C'est qu'une pratique, chacun peut faire ça de sa manière.
Alors là, vous êtes en train de nous donner des perspectives. Comment faire face au changement climatique? Ou bien, sommes toujours dans les conséquences?
Nous sommes toujours dans les conséquences.
D'accord, je vous écoute.
Oui, parce que je ne suis pas en train de développer comment donc ces populations font exactement pour s'adapter. Je suis juste en train de dire que voilà, il y a des techniques et des trucs qui permettent que la population mette en pratique pour essayer de s'adapter.
Ouais. Tous ces événements que vous venez de nous dire favorisent la migration. Quel impact le changement climatique peut avoir sur ces déplacements? Ils se sont déplacés et le changement climatique, c'est partout.
Je suis d'accord quand vous dites que le changement climatique, c'est partout, bien sûr, mais je pense à des degrés différents. Donc, ces populations, comme je le disais, d'autres préfèrent rester pour essayer de s'adapter, mais d'autres également, comme stratégie d'adaptation, parce qu'il faut aussi le dire, la migration fait partie aussi des stratégies d'adaptation. Voilà, c'est la réalité des choses. Donc, d'autres préfèrent migrer pour aller dans des zones moins hostiles de là où ils étaient. Donc, ils vont se rendre là-bas. Bien sûr, il y a des conséquences également parce que quitter chez soi pour se rendre dans un milieu nouveau, inconnu, il y a des conséquences. Et ces conséquences sont le plus souvent sociales. Donc, par exemple, une population qui se déplace avec sa famille de sa zone pour une nouvelle zone, comme conséquence, on le sait, par exemple, ses enfants, surtout les filles, peuvent s'adonner à des pratiques, voilà, pour survivre, hein, bien sûr, à des pratiques qui ne sont pas du tout saines, on le sait. Nous parlons ici du Niger, mais il y a d'autres aussi qui se déplacent vers l'extérieur. Il se trouve que parfois, ce n'est pas toute une famille qui se déplace, c'est seulement les bras valides qui se déplacent. Et quand ils se déplacent, les activités qu'ils font dans leur nouvelle zone et ce qu'ils gagnent, ils essaient aussi d'envoyer quelque chose au reste de la famille qui est restée sur place. Donc tout ça, vraiment, c'est des stratégies d'adaptation.
Justement, le phénomène de migration est ressenti selon le milieu des degrés différents. Exemple, le milieu rural et le milieu urbain ne sont pas frappés de la même manière par ce changement climatique. Donc, pour revenir, donc, l'une des conséquences, on a une urbanisation galopante dans nos villes. Parce que le monde rural, à la recherche de mieux-être, migre pour venir dans le milieu urbain, dans l'espoir de trouver du travail ou autre, en tout cas pour subvenir, pour suivre. Bien que le travail même de plus en plus en baisse aussi, même dans le milieu urbain. Maintenant, nous assistons de plus en plus à des phénomènes sociaux. Par exemple, ici à Niamey, on assiste de plus en plus à une mendicité qui est en train d'être élevée due aux flux de ruraux là, qui sont arrivés dans le milieu urbain, qui ne trouvent pas du travail, donc préfèrent s'adonner aussi à la migration jusqu'à exporter ce phénomène de mendicité.
Donc, si je vous suis bien, le phénomène, la mendicité qu'on constate aujourd'hui, elle est mise sur le compte du changement climatique, de la migration due au changement climatique.
Oui, parce que on n'a pas, pour le moment, des études, parce qu'il y a des structures, je peux citer comme JIMED, qui est en train de mener des études sur aussi les vecteurs même de ce phénomène de mendicité. Je n'ai pas pour le moins de rapport, sinon j'allais. C'est qu'on a un peu travaillé avec eux dans le cadre, on a mis un cadre de concertation, phénomène de la migration au Niger, qui est au sein du ministère même de l'Intérieur. Donc, il y a plusieurs structures dont l'OIM chapeaute aussi le cadre de concertation qui sont en train de mener des études sur le phénomène migratoire. Donc, ce phénomène de mendicité est aussi inclus dans les conséquences liées à la mobilité humaine liée au changement climatique. Parce que c'est le monde rural qui est plus touché par ce phénomène de changement climatique. Leur vulnérabilité est là, en tout cas, révélée. Et donc, ils sont en perpétuel mouvement pour chercher des sites plus favorables pour survivre.
Les effets du changement climatique sur les déplacements peuvent-ils être positifs ou négatifs?
D'accord, je dirais à ce niveau que peut-être il faudrait être prudent en disant peut-être que c'est le deux à la fois. Donc, je vais essayer de m'expliquer. Positif pour qui? Pour la population, cette population rurale
qui se déplace.
Parce que ce n'est pas par gaieté de cœur, il faut le dire, que cette population se déplace. Si elle se déplace, ça veut dire qu'au fond, ça ne va pas. Et donc, c'est pour se rendre dans les villes à la quête donc d'une vie entre griffes meilleure. Et donc, quand elles viennent, eh bien, on peut dire que pour cette population, ça va, parce que, comme l'a dit Monsieur
Toudou,
voilà. Et donc, avec nos valeurs qu'on a, comme la solidarité, eh bien, quand cette population vient, celle qui, donc, la partie qui s'adonne donc, à la mendicité, elle gagne sa compte, et donc son compte autant pour moi. Et donc, il y a d'autres, l'autre partie aussi, qui, les bras valides, peuvent être ceux qui sont, ceux qui peuvent travailler, donc peuvent être des bras valides pour la population locale.
Donc, pour la population locale, également, les déplacements sont plutôt positifs.
D'une part, bien sûr. Donc, maintenant, d'autre part, ça peut avoir donc des effets négatifs pour les deux parties aussi. Je m'explique. Pour la population, par exemple, pour la population qui se déplace, d'accord, quand elle vient et que ça ne va pas comme elle le pensait, ou quand elle vient, par exemple, avec une partie de sa famille, donc, que ce soit, c'est par exemple les enfants, les jeunes garçons ou bien les jeunes filles. Les jeunes filles, par exemple, peuvent être agressées, d'accord? Les jeunes garçons peuvent s'adonner à des pratiques, par exemple, de, je sais pas, de vol, de petit vol, de, voilà, et tout ce qui s'apparente à ça, d'accord? Donc, dans ce cas, cela peut donc avoir, donc créer des problèmes donc pour cette population déplacée. Et pour la population locale également, ces pratiques aussi de vol, par exemple, peut les nuire.
Monsieur Toudou, vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce qu'elle peut être plutôt positive ou négative?
Peut-être pour continuer sur la même lancée, je peux dire en dehors des populations déplacées, des populations hautes, même les autorités sont aussi dérangées par ces déplacements parce que de nouveaux fléaux viennent s'ajouter. Les autorités vont devoir faire face à la prise en charge de tout ça. Où on a vu de plus en plus. Ça, rien que la semaine dernière, les autorités sont sorties pour décrire le phénomène de prostitution des jeunes filles. Parmi elles, il y a des jeunes filles urbaines et rurales qui sont arrivées. De la consommation de la drogue, des agressions physiques.
Par-ci, par-là, voilà. Dans la ville.
Mm-hmm. Donc, vous voyez, donc c'est... Ça induit beaucoup d'effets au niveau de l'urbanisation qui n'est pas bien contrôlée. Donc, avec l'arrivée aussi de ces populations déplacées, ça devient un véritable casse-tête pour les autorités aussi.
Et quel genre de risques ces réfugiés climatiques peuvent encourir une fois en déplacement?
Ils encourent beaucoup de risques parce que, en dehors de ces problèmes, il arrive qu'on fasse face à des montées des épidémies, parce que déjà, c'est trouver un site d'accueil qui cause le premier casse-tête pour ces, si elles viennent en masse, ces populations. Donc, trouver un site d'accueil même, ça devient un problème parce que si les autorités ou bien le monde humanitaire n'intervient pas vite, donc là, ça cause un problème humanitaire très grave. Rien que le coup du cas de la commune de Asmaka à Gadès, où ils ont enregistré une énorme quantité de personnes en migration, d'autres sont venus des pays voisins, et maintenant aussi des déplacements liés à l'insécurité. Donc, j'ai vu le maire sortir à la télé pour dire qu'ils sont au bord d'une crise humanitaire parce qu'ils n'arrivent pas à gérer.
C'est toutes ces migrations.
Voilà.
Monsieur Bourahima, quel genre de risques ces réfugiés sont-ils confrontés?
Donc, parmi les risques, hein, il a déjà évoqué, il y a le risque sanitaire parce que c'est des gens qui sont là, ils vivent vraiment pratiquement dans l'insalubrité, parce qu'ils n'ont même pas de local propre. Ils sont là, ce sont eux qu'on voit au bord des routes, dans des endroits vraiment isolés, insalubres. Donc, cela leur expose vraiment à un risque sanitaire. Par exemple, quand il y a des épidémies ou autres, ils sont les premiers à être frappés, en dehors des petites maladies qu'ils contractent part et d'autre. Et aussi, il y a le risque vraiment d'insécurité. Parce que, bon, il faut le reconnaître, nos villes même ne sont pas sécurisées. Et donc, quand des gens sont là, exposés, voilà, qui n'ont pas d'abri, qui sont là, ils peuvent vraiment, à tout moment, être agressés physiquement. Je pense que c'est les deux principaux risques.
Est-ce que la migration est une réponse adéquate pour faire face aux changements climatiques et environnementaux? On arrive à la question maintenant.
D'accord. Quand on voit des populations se déplacer, dans la plupart des cas, c'est par cas de force majeure. La plupart de nos populations donc rurales ont des stratégies d'adaptation face au changement climatique, notamment par rapport à la question de la dégradation des terres, qui est donc la base productive sur laquelle elles exercent toute leur activité, que ce soit l'agriculture ou l'élevage. Et donc, quand cette base est exposée à une dégradation, ces braves populations, avant même de penser à la migration, essayent de lutter de toutes leurs forces d'abord. Ce n'est pas que je prends leur défense. Ayant l'habitude de séjourner en milieu rural, eh bien, je sais bien de quoi je parle. C'est des braves gens. Et donc, comme en pratique, il y a ce qu'on appelle les pratiques sur SDRS. Donc, ce sont vraiment des pratiques qui leur permettent d'essayer de restituer au sol son aptitude qu'il a perdue. Donc, comme quand on dit CSDRS, donc c'est des méthodes de conservation et de restauration des sols. Donc, parmi les techniques, il y a ce qu'on appelle en German les tassas ou zaï en français, ok? C'est de faire des petits trous. Comme déjà, ils font face à des problèmes de dégradation des terres, la pluie qui devient rare, eh bien, la petite goutte de pluie qui doit tomber, il faut faire en sorte pour mieux la gérer. Donc, pour ça, ils mettent en place vraiment des pratiques, les ailes, les demi-lunes et autres. Également, les paysans dont leur champ donc, est soumis donc, à des phénomènes de ravinement, essaient donc avec les moyens des bords, si c'est avec, par exemple, des blocs de pierre ou même des branches d'arbres, ils essaient donc de couper et mettre ça à l'intérieur pour réduire au maximum l'effet donc de ces ravins. Parce que quand on laisse les ravins à découvert, avec le temps, eh ben, ça peut occuper tout le champ et donc empêcher, faire perdre aux paysans son champ. Donc, face à ces phénomènes, vraiment, ils essaient de développer ces pratiques pour essayer de rester. Et comme autre stratégie d'adaptation, je le disais, hein, la migration, ça fait partie des stratégies d'adaptation. Parce qu'une population qui ne parvient plus à produire dans son champ, ça veut dire que la personne n'a plus de quoi mettre sous la dent. Donc, Monsieur Toudou a parlé donc, de l'insécurité alimentaire. Ces gens sont confrontés à l'insécurité alimentaire. Et donc, les enfants ou bien les braves valides qui sont envoyés en migration, qui sont envoyés à l'intérieur ou à l'extérieur, l'argent qu'ils envoient peut servir à l'achat donc, de la nourriture. Donc ça, c'est des stratégies d'adaptation que la population essaie donc de mettre en œuvre et de rester au cas où le phénomène n'est pas extrême à tel point à les pousser à quitter le lieu. Voilà.
Monsieur Toudou, la migration représente-t-elle une solution adéquate pour faire face aux changements climatiques et environnementaux?
Donc, pour continuer dans la même lancée que Monsieur Brema, je pense que d'un côté, on peut dire oui, quand la situation devient complètement ingérable, il faut quitter. Maintenant, si non, quand on peut faire face à ce phénomène et s'adapter, donc on décide de rester et lutter jusqu'au bout de ses forces. Et c'est là où il a parlé de pratiques pour pouvoir atténuer l'impact qui va pousser les populations à complètement se déplacer. Je pense que dans le même ordre d'idées, il y a un dehors de pratiques endogènes que ces populations utilisent pour résister. Il y a aussi de l'appui qui vient aussi à travers différents mécanismes, tantôt l'État et ses partenaires, pour aussi un peu faciliter la résilience à ces populations victimes de chocs climatiques et autres.
Sachant que la trajectoire que prendront les migrations climatiques internes au cours des prochaines années dépend de l'action collective que nous menons aujourd'hui, vous l'avez dit, Monsieur Bourahima, le nombre de ces migrants d'ici 2050 pourrait être réduit de 80% selon OIM. Alors, en perspective, comment est-ce que les populations pourraient-elles s'adapter au changement climatique en vue de cette réduction?
Vaste programme, bien sûr, mais ce n'est pas impossible. Donc, l'adaptation au changement climatique, c'est l'affaire de tous. Et je pense que il faudrait à ce que tous, que ce soit nos dirigeants ou même nous qui sommes les citoyens, que nous nous mettions à partir de cet instant. Et donc, c'est de se mettre à mettre en pratique les bonnes pratiques, que ce soit de l'agriculture, de l'élevage, parce que nous sommes un pays qui dépend à plus de 80% de l'agriculture. Or, je le dis à mes débuts, que le changement climatique, le facteur qui l'accentue, c'est dû aux gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre...
Dû aussi à l'action de l'homme.
À l'action de l'homme. Donc, il faut que l'homme comprenne que tout dépend de lui. Quand il se met à mettre en pratique les bonnes pratiques, eh bien, elle peut inverser la tendance. Parmi ces pratiques, je vais dire, par exemple, prenant le domaine de l'agriculture, c'est d'essayer vraiment de travailler nos terres de sorte à ne pas accélérer leur dégradation. Parce que, bon, le phénomène naturel est déjà là, mais nous pouvons aussi agir pour minimiser le phénomène de dégradation. Essayer également, à travers nos industries, d'accord, d'aller beaucoup plus vers les innovations qui se détachent beaucoup plus des énergies fossiles pour tendre vers les énergies renouvelables. Je pense que c'est possible. Nous avons le soleil qui est là, qui tape fort. On peut profiter de ça pour tendre vers les énergies renouvelables. Parce que nos industries également dégagent énormément de gaz à effet de serre. Donc en tendant vers les énergies renouvelables, on peut réduire ces gaz à effet de serre et donc réduire l'effet du changement climatique. Je pense qu'en gros, voilà ce que je veux dire. C'est d'abord nous, il faut qu'on revoie nos façons de faire, nos manières de faire.
Monsieur Todou, comment, selon vous, les populations pourraient s'adapter au changement climatique en vue de réduire toutes ces migrations internes?
Je pense que M. Brahima a déjà résumé en partie les actions, parce qu'il dit tout est l'action de l'homme. Donc, c'est à l'homme là de revoir son action en mettant en pratique des stratégies d'atténuation ou d'adaptation. Quand il parlait des énergies renouvelables, voyez de plus en plus, donc avec la production pétrolière, on va tendre vers un pays pollueur au lieu d'un pays non pollueur. Parce que c'est une industrie qui dégage énormément. Là, le Niger va être en observation par rapport. Parce que dans les années antérieures, même dans les négociations, nous, on est classé parmi les pays non pollueurs. Donc, avec le pétrole et l'uranium, certainement qu'on va aller vers les pays pollueurs. Alors, quand il parlait aussi de l'action humaine, donc déjà au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire là, la société civile, le gouvernement, tente aussi de faire des actions en ce sens pour aussi un peu
soulager les souffrances des populations par rapport à ça et éveiller aussi les consciences par rapport à l'adaptation de l'agriculture dans notre pays. Vu des vastes programmes en train de voir le jour, c'est super. Donc maintenant, je dois continuer aussi les sensibilisations dans ce sens par rapport à ces pratiques qui peuvent équilibrer l'agriculture. Parce que l'agriculture est citée parmi les grands pollueurs. Parce que c'est l'agriculture aussi qui dégage beaucoup les gaz à effet de serre, dont il a parlé. Mais bon, nous, on n'a pas atteint ce stade de l'agriculture qui pollue. Mais si on ne prend pas garde, on peut arriver à ça.
Mais pour qu'on n'arrive pas à cette agriculture qui pollue, quelle alternative est-ce que vous proposez?
De plus en plus, les voix sont en train de s'élever dans le monde des associations pour faire la promotion de l'agroécologie, qui n'est pas nouveau. C'est un truc maintenant. Là, c'est des pratiques anciennes qui sont en train de se transformer en techniques avec des évidences scientifiques que les chercheurs sont en train. Donc ça, peut-être, va nous permettre d'équilibrer notre agriculture au lieu d'utiliser la mécanisation et autres. Donc, si ces pratiques anciennes sont véritablement transformées en techniques et que les producteurs s'approprient ça, je pense qu'on peut limiter les dégâts.
Bourahima, vous avez écouté M. Toudou. Que préconisez-vous pour qu'on n'arrive pas à cette agriculture qui pollue?
Ce qu'il faut, c'est de dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. C'est ça qui va nous permettre vraiment d'avancer. Et donc pour ça, M. Toudou, pour vous répondre, je pense que la science, je ne dirais pas qu'elle a joué sa partition, mais elle est en train de jouer sa partition. La science a œuvré beaucoup dans ce domaine. Et donc, comme par exemple technique, d'accord, comme ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de travailler le moins possible, à défaut d'éliminer complètement le travail mécanique du sol, après la moisson. Donc, ne pas découvrir le sol complètement, par exemple de la paille. C'est-à-dire quand les populations prélèvent donc ou enlèvent leur production, la paille, c'est vrai, ils utilisent ça pour autre chose, mais il y a une étude qui a démontré que, parce que ce que nous, nos populations font comme pratique, c'est que quand ils veulent enlever la paille, ils enlèvent ça complètement jusqu'à la racine. Or, une étude a montré que quand on coupe les pailles à 20-30 cm, le reste va servir donc aux termites. Donc, les termites vont remonter à la surface du sol pour se nourrir donc de ce reste-là. Et donc, le fait que ces termites remontent à la surface, ça améliore la structure du sol. Et quand la structure d'un sol est améliorée, ça réduit le phénomène de dégradation des sols à travers l'érosion hydrique. Parce que c'est quand le sol ne parvient pas à infiltrer l'eau de la pluie que l'eau se met à ruisseler. Et en ruisselant, ça crée donc
l'érosion.
Voilà, comment on appelle les ravins. Ça, c'est un. De deux, la science également a œuvré en ce sens qu'elle a mis en place la technique qu'on appelle la RNA. Et là, pour les agriculteurs, c'est d'essayer d'entretenir le mieux possible les petits régies d'arbres qui se trouvent dans leur champ pour que ces arbres grandissent. Nous connaissons tous la valeur des arbres. Et là, je profite pour lancer un appel à la population pour qu'ensemble, on œuvre à la plantation des arbres. Parce que plus il y a d'arbres, plus ces arbres contribuent à la réduction des gaz à effet de serre. Et donc, mieux notre environnement se portera.
Et toutes ces solutions permettront à nos populations de rester chez eux.
Oui. Voilà. Ça fait partie quand même des solutions.
Ici se termine ce débat. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à vous, Monsieur Bourahima et Monsieur Toudou, d'avoir répondu présent à notre débat. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre thème du Studio Kalangu. D'ici là, portez-vous bien.